Bonjour et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et voilà, nous voilà en décembre et je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont en train de se creuser la tête pour chercher des cadeaux de Noël. Eh bien, nous, on a pensé à vous et on va vous conseiller des livres.
Alors, comme toute l'année d'ailleurs.
Voilà, vous pouvez aller rechercher dans nos émissions précédentes d'ailleurs de bonnes idées de cadeaux. Et puis, il y a quelques jours, l'association 813, une association amie, a décerné ses trophées. Donc, pourquoi ne pas offrir un livre primé par cette association? Donc, je vais vous citer les quatre, j'allais dire romans, mais ce ne sont pas tous des romans, donc les quatre plébiscités. Donc, le trophée du meilleur roman francophone a été attribué à Chloé Mehdi, un très beau roman paru chez Gigal l'année dernière, Rien ne se perd. Alors, c'est pratique, vous pouvez l'avoir en trois formats. Le grand format, un format poche Gigal et un format poche J'ai lu. Voilà, pour toutes les poches et pour toutes les bourses. Le trophée du meilleur roman étranger, là c'est un grand format, c'est un très très beau roman de Don Winslow qui nous avait enchanté il y a quelques années avec La griffe du chien. Et là, c'est un petit peu la suite, mais bien sûr on peut lire Cartel, le roman primé, sans avoir lu La griffe du chien, donc Cartel de Don Winslow aux éditions du Seuil.
Traduit par Jean Hesch.
Traduit par Jean Hesch, merci beaucoup. Vient aussi, pour ceux qui aiment la bande dessinée, le trophée de la meilleure bande dessinée qui a été attribué à Miles Eman pour un très très bel album qui s'appelle La Loterie. Miles Eman a illustré de ses pastels et de ses couleurs magnifiques un texte de sa grand-mère qui s'appelait Shirley Jackson et qui était une grande écrivain américaine dans la moitié du XXe siècle.
Une nouvelle
glauque.
Voilà.
Qui illumine les dessins d'ailleurs de Miles Eman. Enfin, le prix Maurice Renaud, qui est un trophée qui est décerné à une contribution, à un essai qui permet la promotion du genre policier, a été attribué à une revue. Cette revue, c'est Temps Noir, édité par les éditions Joseph K. Et c'est le numéro 19, qui est consacré à un écrivain célèbre en France, un écrivain de talent, qui s'appelle Jean-Bernard Pouy. On vous en reparlera dans pas longtemps, car un nouveau roman de Jean-Bernard Pouy sort en janvier à la série noire. C'est un petit événement, ça. C'est sûr qu'on va en reparler, peut-être même avec l'auteur. Autre cadeau de Noël possible, le roman dont je vais vous parler maintenant. Ce roman, je l'avais gardé au chaud, justement pour vous inciter à l'offrir à de multiples reprises en cette fin d'année. C'est un roman qui s'appelle Glaise, c'est un roman de Franck Bouys. On est quelque part dans le Cantal.
Il est paru à la Manufacture de Livres.
Tout à fait, merci. On se retrouve donc avec Franck Bouys dans le Cantal, qui nous emmène, comme à son habitude, hors des sentiers communs, dans des coins paumés. Et ici, on est à l'ombre du Puy Violent, qui porte bien son nom, en cet été 1914. Franck Bouys fait une incursion dans une époque plus ancienne. Deux familles voient partir leurs hommes à la guerre. On a d'un côté les Larry, c'est le père qui quitte mère, femme et enfant. Dans une autre ferme, pas loin, chez les voisins, les Valettes, c'est le fils Eugène qui laisse ses parents seuls face aux travaux des champs. Le père, handicapé, ne peut être enrôlé. Une honte non bue chez cet homme agressif et sanguin. Dans ce pays très désert, on fera aussi la connaissance de Léonard et Lucie, une autre ferme encore, qui vont représenter tout le long la mémoire des lieux et des hommes, celle des gestes, celle des us et coutumes du pays. Des figures tutélaires aussi. Et dans ce coin de campagne âpre et rude, les échos de la guerre résonnent au jour le jour, tout à la fois lointaines et si proches. Comme lorsque l'on réquisitionne des bêtes de trait, c'est juste insupportable de se voir enlever son âne, son cheval. Et la violence de la scène montre à quel point les corps et les âmes sont meurtries. Tout juste si le quotidien de Joseph, un des plus jeunes personnages, chez le fils Larry, Il est devenu entre-temps l'homme de la famille, puisque son père est parti à la guerre. Son quotidien va être éclairé par l'arrivée d'Anna. Elle est dans l'autre ferme. C'est la nièce des Valettes, une Parisienne qui vient se mettre au vert pendant le temps de la guerre. Et entre les deux jeunes gens, un amour arrive à fleurir au milieu des corvées et des mauvaises nouvelles. Mais l'homme, l'oncle, le Valette, ainsi que dans un drame antique, a d'autres vues sur sa nièce. Y a-t-il donc un avenir possible, tant dans ce coin reculé du Cantal, que dans ce monde broyé par cette boucherie sans nom que fut la guerre 14-18? On retrouve des thèmes communs aux précédents romans de Frank Buis, comme dans Plateau, ce sont les femmes qui détiennent les clés. Souvent, comme il le dit, femmes de trait, comme Anna, la grand-mère de Joseph, Mathilde, sa femme, ou Angèle, pardon, Mathilde, c'est la mère de Joseph. Angèle, c'est la femme de Valette. Ce sont elles qui gèrent les travaux et leurs hommes au sein de ce que Frank Buis appelle leur chiron minéral. Et je vais vous lire un petit extrait de ces femmes qui, dans ces coins, n'ont pas beaucoup droit à la parole. Pour les femmes, la vie, c'était des actes et bien peu de mots. On leur avait appris que les mots représentaient la désinvolture de l'esprit s'ils n'étaient rattachés à des gestes concrets, comme égrener un épi de maïs, pétrir une pâte, fendre une bûche par le milieu, construire un feu. Les mots, quand ils sortaient, leur semblaient boursouflés de raison, jamais de légèreté et encore moins de folie. On est ici dans un pays de taiseux. Et donc, on a ces femmes qui rejettent les liens de sang, qui les protègent aussi, ces liens de sang, ou plutôt même les secrets par le sang lié. Les hommes, ici, issus de leur matrice donc, semblent de granit, mais leur ossature est de glaise, comme le titre du roman. Cette glaise que pétrit Joseph, le jeune homme, dans ses rares moments de repos, d'évasion. L'écrivain arrive à saisir l'instant, le geste, la pensée. Il le sculpte, il écrit les douleurs et les peines, les courbatures de l'esprit quand l'échine n'en peut plus et que la tête explose. Quand, au-dessus des petites marionnettes humaines, l'orage gronde et que le destin frappe. Au hasard, absurde et injuste. Je cite l'auteur, « Des choses peuvent arriver et le pire en fait partie. » Reste, comme je le disais tout à l'heure, quelques instants fugaces d'amitié, de fidélité, d'amour, des amours qui arrivent à émerger d'instants volés à la vie, à la mort, à la guerre. Autre petit extrait. Alors, il faut que j'arrive à trouver la page. Comme un poème, d'ailleurs. Je suis bien avec toi. Moi aussi, je suis bien. Tu connais des prières ? Oui, j'en connais. Une belle prière, je veux dire. Pourquoi tu me demandes ça ? Ce serait bien que t'en dises une, plus tard. Allez, dis-le-moi encore. Quoi ? Que tu m'aimes ? On dira que c'est la plus belle des prières. Je t'aime, arrête pas. Je t'aime, arrête pas. Arrête jamais. Voilà, je vous laisse découvrir ce qui va arriver à ces amoureux. Donc, dans ce roman, il y a aussi la terre qui n'aimait pas, ne haïssait pas, qui ne pensait ni au mal ni au bien, ne pensait pas, comme dit Frank Buis. Que ce soit dans ce roman les animaux, la terre ou les hommes, Frank Buis les éclaire d'un regard toujours, toujours bienveillant. Il s'attache, nous attache à chacun, avec tout à la fois beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de pudeur. J'espère que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre qui est une très belle réussite. Donc Glaise, c'est le titre du roman et c'est paru en début d'automne à la Manufacture de Livres. Voilà, un très beau cadeau à faire, un roman de, je regarde, plus de 400 pages, mais qu'on va dévorer. Un petit morceau de musique, Jacques ?
Un petit morceau de musique. En fait, j'ai fait presque dans la facilité, puisqu'en fait, c'est un musicien dont parle l'auteur dont on va parler juste après la musique.
Dont je vais parler.
C'est le chanteur-guitariste George Forogood and the Delaware Destroyers, toujours avec mon fameux accent. La chanson s'appelle...
Qui n'a pas traversé l'Atlantique.
Voilà. La chanson s'appelle Bad to the Bone. C'est extrait d'un disque qui s'appelle Bad to the Bone. qui date de 1982. Je pense que c'est un des premiers de George Hallgood. C'est du boogie pur jus, avec la guitare, du bottleneck, un petit saxophone. C'est tout juste bon.
Born. The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, 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 bad to the bone.
Donc, c'est Bad to the Bone de George Thorogood.
Voilà, on peut le traduire mauvais jusqu'à l'os, mauvais jusqu'à la moelle, je suppose, ce titre.
Voilà, et ça correspond à un des personnages du livre de Vladimir Hernandez qui s'appelle Indomptable, qui est paru chez Asphalt et qui est traduit par Olivier Hamilton. Alors, quand on ouvre ce roman, on lit une dédicace à Manuel Vázquez Montalbán, Elmore Leonard et Donald Westlake.
De belles références, quand
même. Et cela inspire effectivement tout de suite d'emblée de la sympathie. Et comme en plus, sur la couverture, il y a une Triumph Bonneville, on a un a priori extrêmement favorable.
Alors une Triumph Bonneville, on peut quand même expliquer, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas du tout ou qui ne connaissent pas du tout les motos,
c'est une très jolie moto. Anglaise, voilà. Avant même d'avoir donc commencé à le lire, on se dit que ça va être bien. Et dès les premiers chapitres, cela se confirme, on est tombé sur un bouquin très bon. Le roman se passe à Cuba. Vladimir Hernandez est cubain. Mario Duran et son pote Ruben sont libérés de la prison où ils purgeaient une peine pour trafic d'Internet illégal. En fait, ils faisaient des dérivations Internet pour fournir...
Ah, c'est pas des hackers.
Non, c'est pour fournir de l'Internet à des gens qui l'avaient pas, avec un tarif plus léger que celui que faisait payer le fournisseur officiel à Cuba. En fait, ils sont libérés de prison pour participer à un cambriolage dans le but de s'approprier le contenu d'un coffre-fort. Les braqueurs vont utiliser leurs compétences en informatique et en télécom, c'est un peu tous les deux des ingénieurs. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, du moins comme ils l'auraient souhaité. Dès le prologue, on découvre Mario. Il se réveille ensanglanté, enterré vivant sous le corps, criblé de balles de son ami Ruben. Passé la douleur, la colère se réveille, pas to the bone. Il va parcourir les rues de la Havane, le plus souvent au guidon d'une Harley Davidson Duo Glide Vintage de 1952.
Une autre moto.
Il va parcourir donc au guidon de cette moto. Il va aller rechercher tous les braqueurs et aussi leur mystérieux chef. Alors, si vous aimez Donald Wesley que j'évoquais au début, cette trame doit peut-être vous rappeler quelque chose. Le livre Comme une fleur, qui s'appelle The Hunter en anglais, en
d'ailleurs,
américain.
D'ailleurs, drôle de traduction, parce que voilà. The Hunter, c'est le chasseur. Et
ça, c'était les traductions des années 60
à la série noire.
À la série noire, donc c'est le numéro 808 à la série noire. En fait, c'est un polar, pas de Wesley, mais de Richard Stark, qui est donc, en fait, Wesley, c'est un de ses pseudos. Dans ce roman, Parker est laissé pour mort par ses complices lors d'un braquage et il va chercher à se venger tout au long du roman.
Donc, il faut dire que Parker, c'est un personnage assez bad boys qui est le personnage récurrent de Richard Stark.
Vous l'avez peut-être vu aussi au cinéma, cela s'appelle Point Blank ou Le Point de Non-Retour, c'est un film de John Borman. Et ce roman de Vladimir Hernandez est en quelque sorte un remake à la sauce cubaine. À l'instar de son double, Westlakien, la vengeance de Mario va être violente, systématique, déterminée et implacable, jusqu'à ce qu'il démasque le commanditaire du cambriolage, celui à qui était destiné le contenu mystérieux du coup. Alors on découvrira, au travers de ce roman, l'enfer des prisons cubaines, où les prisonniers politiques, bien qu'il n'y en ait pas théoriquement, côtoient les droits communs les plus radicaux, où la survie peut dépendre d'une simple cigarette ou d'un colis avec du chocolat qui serait arrivé à bon port. Cette vendetta va permettre aussi à Vladimir Hernandez de nous faire passer donc un moment à Cuba, à la Havane, avec cette jeunesse désœuvrée mais débrouillarde, une jeunesse qui est plus désabusée que vindicative. Alors il n'y a pas vraiment de militantisme anti-castriste dans ce roman. On apprendra par contre des petites anecdotes comme la coexistence sur l'île de trois monnaies. Le peso, c'est la monnaie officielle, le peso convertible, donc ça dit ce que c'est, et le dollar US. Et le dollar US, c'est le Graal, ça permet tout ou presque sur l'île. Voilà, vous vous doutez bien qu'il va trouver tout le monde, donc c'est vraiment lui, c'est peut-être lui qui est bad to the bone, peut-être pas que lui d'ailleurs. Vladimir Hernandez est un ingénieur et écrivain cubain qui s'est exilé ou installé en Espagne. Alors certes, ce roman n'est pas encore au niveau de Westlake ou Richard Stark, mais il y a déjà, pour un premier roman policier, puisqu'il en écrit d'autres qui sont des romans, disons, de la blanche, comme on dit, ce roman a déjà vraiment bien réussi, il pulse d'un bout à l'autre, et certes, il y a une virtuosité dans le rythme, un peu comme le rythme de la virée en Harley Davidson. Elle va pas être de tout repos, ni pour le héros, ni surtout pour les ennemis de ce héros qui sont devenus, en fait, ses cibles. Par contre, évidemment, si ça se passe mal pour les ennemis de Mario, le roman, lui, est par contre très agréable à lire pour le lecteur qui passe un vrai moment, bien que ce soit quand même assez,
métal.
Musclé. Métal, ouais. Il reste néanmoins une petite intrigue non résolue à la fin de ce livre. Pourquoi le graphiste de l'éditeur a-t-il choisi d'illustrer la couverture avec une Triumph alors que la seule moto de l'histoire, c'est une Harley Davidson?
Tout simplement parce que ça a attiré ton regard et ça t'a peut-être permis de choisir ce livre parmi tant d'autres.
Peut-être, et peut-être ça vous permettra de le choisir, vous aussi. Peut-être Vladimir Hernandez, Indomptable, paru chez Asphalt et traduit par Olivier Hamilton.
À tout de suite.